Dans le récit de la discussion de Jésus avec la Samaritaine, il est question d'eau. Évidemment, c'est allégorique, tout le monde le pense. Le sens propre serait absurde, penser que l'aide de Jésus pourrait être en sorte qu'on n'ait plus besoin de puiser de l'eau matériellement dans un puits n'a pas de sens. C'est-à-dire que ce qu'apporte Jésus dans une vie, ce n'est pas de mettre l'eau courante à tous les étages, mais c'est bien de donner autre chose. Et cette autre chose, on a une idée de ce que c'est, parce que l'eau dans la Bible est un signe de la bénédiction de Dieu, une image de la présence de Dieu. Et c'est bien évidemment ce dont il est question dans ce texte et ce que nous promet Jésus. Déjà sur ce point, on voit qu'il est bon de préciser cela, parce que ça ne semble pas évident. Et on voit en effet dans ce texte, apparemment, la Samaritaine qui croit que Jésus va lui permettre d'avoir une source d'eau matérielle dans sa maison pour qu'elle n'ait pas besoin d'aller au puits, et Jésus qui parle d'autre chose. Et j'ai l'impression que ce quiproquo est en fait quelque chose qui est encore bien présent dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens croient en Dieu en se disant « Tiens, c'est commode, parce qu'en Dieu, j'ai une puissance matérielle qui pourra peut-être me permettre d'être moins malade ou d'avoir moins de difficultés terrestres ou de retrouver un travail si je suis au chômage, etc. » Alors que les dons de Dieu ne sont évidemment pas de cet ordre-là. Ce sont des dons spirituels, intérieurs, et ce qu'il nous donne, c'est la foi, c'est l'espérance, et toutes ces choses du ciel, pourrais-je dire. Et évidemment que quand Jésus dit qu'il est la lumière du monde, ce qu'il donne n'est pas une source lumineuse qui se mesurait en kilowatts. Et donc quand Jésus nous dit qu'il peut nous guérir, il s'agit évidemment de guérison intérieure. En tout cas, que l'eau soit un symbole de la grâce et de la bénédiction de Dieu, on le comprend assez bien. Parce que nous, dans notre pays, au climat modéré, on n'en a pas trop l'idée, mais il faut se remettre dans le contexte biblique de gens qui vivent dans le désert. Et d'imaginer que dans le désert, tout est sec, tout est brûlé, tout est dur, minéral. Et de voir à quel point, quand un peu d'eau arrive dans le désert, eh bien, tout de suite, tout verdit et fleurit. Il faut avoir expérimenté cela. Je l'ai vu moi-même dans le désert. Lorsqu'il pleut une fois tous les 10 ans, il pleut et le lendemain, le désert est comme un pâturage. Tout devient vert et accueillant. Et je pense que cette espèce de renaissance que l'on peut voir est bien ce que la présence de Dieu peut nous donner. Quand notre vie parfois risque de sembler aride, desséchée, dure, brûlée, eh bien la grâce de Dieu devient comme une source d'eau qui arrose notre vie et qui permet de transformer quelque chose de sec, de désespérant et d'hostile dans comme un jardin fécond, luxuriant, agréable, doux et qui peut donner un vrai bonheur et une vraie joie pour ceux qui s'en approchent. Donc oui, la présence de Dieu est vraiment comme cette source d'eau offerte à tous, l'universalité de la grâce, et on ne pouvait pas trouver de meilleure image. C'est pourquoi d'ailleurs on donne le baptême des enfants avec un peu d'eau et qu'on signifie pour ces enfants notre idée que la grâce elle est universelle. Et j'aime qu'on baptise les bébés. Avant de savoir s'ils seront bons ou pas, avant de savoir s'ils auront la foi ou non, parce que nous disons bien que la grâce de Dieu, elle est offerte d'une façon inconditionnelle et indépendamment, je dirais, de la réponse que nous en ferons. Quand une source coule dans le désert et crée autour d'elle un espace miraculeux d'un oasis où il y a de la verdure et de la fraîcheur, eh bien cette oasis existe. Que vous veniez vous abreuver à cette source ou non, elle est présente. Et la grâce de Dieu, elle est comme ça, préalable à tout. Et puis encore, cette grâce de Dieu, je la trouve merveilleusement respectueuse de celui à qui elle est donnée. Parce que l'eau l'eau qui tombe ou la pluie qui tombe sur une terre ne modifie pas ce qui se trouve dans la terre. Elle permet simplement à ce qui est aux graines qui s'y trouvent de s'exprimer et de grandir et de pousser. Et ainsi, j'aime aussi ces baptêmes d'enfants où nous disons bien que notre image, que l'image que nous avons de la grâce, ce n'est pas de cloner un nouveau chrétien et d'imposer quelque chose à l'enfant, mais simplement une grâce qui, en respectant entièrement ce qu'est cette personne, de lui permettre de grandir, de s'exprimer et de se développer en respectant totalement la nature du terrain donc, sur laquelle la grâce est donnée. Et donc voilà cette image de l'eau souvent exprimée dans la Bible et qui se trouve évidemment dans ce texte avec la Samaritaine. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce débat entre Jésus et la Samaritaine est quand même bien curieux. Parce que habituellement, on le voit comme une espèce de quiproquo, vous disais-je, entre la femme et Jésus. Jésus qui parle symboliquement et la femme qui ne comprend rien et qui entend tout au pied de la lettre. Et c'est ce que l'on croit d'habitude, et je ne suis pas certain que ce soit vrai. Je pense même que c'est une fausse interprétation de ce texte. Certes, c'est drôle, on peut s'amuser de la bêtise de la Samaritaine, et on se dit vraiment, elle est pas maline, elle comprend rien, elle reste complètement dans le contresens, et elle met beaucoup de temps à comprendre, on peut s'en amuser. Mais je ne crois pas que l'Évangile soit là pour se moquer des gens. À moins que, si peut-être qu'un sens, ce serait de dire, vous voyez, cette Samaritaine, elle ne comprend rien, mais rien de rien. Et pourtant, elle finira par découvrir le Christ. Alors moi, ça me rassure peut-être déjà un peu, parce que je me dis que souvent je suis comme elle, et je lis les textes bibliques un peu au pied de la lettre. J'ai souvent une espérance fausse à l'égard de Dieu. Eh bien, il n'y a pas à se décourager. La Samaritaine elle-même s'est trompée et elle a fini par comprendre. Donc la bonne nouvelle n'est pas réservée à ceux qui immédiatement comprennent de quoi il s'agit. Donc oui, c'est peut-être rassurant, mais je pense que le message biblique va bien au-delà. Et personnellement, je crois que cette interprétation habituelle du quiproquo est simplement une fausse piste et qu'il faut le lire tout à fait autrement. Et j'en ai la preuve que c'est une fausse piste. Et j'ai la preuve que la Samaritaine, en fait, dès le début, a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un langage allégorique et spirituel. Et je crois donc au contraire qu'il faut relire ce débat entre Jésus et la Samaritaine comme un dialogue et une discussion extrêmement pointue sur la manière avec laquelle on peut bénéficier de la grâce de Dieu et de quelle manière Jésus peut nous la donner. Et donc j'ai la preuve de cela. La preuve, c'est la chose suivante. C'est qu'à un moment donné, la Samaritaine dit à Jésus, « Donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus jamais soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser au puits. » Eh bien, c'est la preuve que l'interprétation habituelle est fausse. Parce que moi, j'ai une maison dans la montagne où il n'y a pas l'eau courante. Et pour aller chercher de l'eau, il faut faire une demi-heure pour aller à la source et on revient. Eh bien, j'ai expérimenté ce que savent tous ceux qui ont vécu sans eau courante, c'est que par jour, il faut entre 10 et 20 litres d'eau pour vivre. Et dans ces 20 litres d'eau, il n'y en a que un ou deux qui servent à boire. C'est-à-dire que la majorité de l'eau dont on a besoin tous les jours n'est pas du tout pour boire. C'est pour faire la cuisine, pour faire la vaisselle, pour faire la lessive et pour des tas d'autres choses. Pour boire, on a besoin de très peu d'eau. Je vous dis un litre ou deux par jour. Et donc, même si elle n'a plus jamais soif, ça ne l'empêchera pas d'être obligée d'aller puiser au puits. Peut-être pas 20 litres, peut-être que 19 ou 18, mais ça ne l'empêchera pas. Et donc, cela prouve bien que ça ne peut pas fonctionner, cette histoire. Et la deuxième preuve, c'est une autre absurdité du texte, c'est cette histoire de puits de Jacob. Et donc, la Samaritaine dit, vous savez, es-tu plus grand que notre père Jacob qui a creusé ce puits ? Or, vous pouvez chercher dans tout l'Ancien Testament. Eh bien, il n'y a aucun puits de Jacob en Samarie. Aucun de aucun. À un moment donné, si on évoque un puits qui pourrait avoir un lien avec Jacob, mais ça se trouve chez Laban, je crois en Mésopotamie, enfin en tout cas à des milliers de kilomètres de là. Et donc il n'y a aucun puits de Jacob en Samarie, ça c'est certain. Par conséquent, cette allusion au puits de Jacob est évidemment absurde. Et je pense que quand la Samaritaine dit qu'elle puise dans le puits de Jacob, elle ne parle évidemment pas d'un puits qui aurait été creusé il y a je ne sais pas combien de milliers d'années par le patriarche, mais elle est déjà dans le langage allégorique et spirituel. C'est-à-dire que la Samaritaine, elle est dans la logique de la tradition juive, qui est un peu représentée aussi par les pharisiens, c'est-à-dire qu'ils pensent que la bénédiction, donc l'eau autrement dit, elle provient de l'obéissance au commandement de la loi. Et tout l'Ancien Testament est comme ça. L'Ancien Testament a une vision, je dirais, fastidieuse de la religion. Une vision héroïque. Elle dit qu'il faut faire des efforts pour gagner la bénédiction de Dieu, qu'il faut travailler, qu'il faut pratiquer, qu'il faut obéir à des commandements et qu'il faut donc être fidèle à toutes ces règles qui ont été données par les patriarches, c'est-à-dire par Moïse, par Abraham, par Jacob et tous les autres. Et ainsi, il s'agit bien de cela, d'aller puiser dans la tradition de l'Ancien Testament et d'aller creuser dans cette tradition pour essayer d'y remonter à la surface une source de bénédiction qui pourrait nous aider. Mais Jésus, donc, lui, va proposer une autre méthode. Et il va dire, ce n'est pas en allant puiser dans la tradition que vous trouverez la bénédiction, mais il dit, c'est moi la source d'eau vive. Et donc, si tu me demandais à moi, tu n'aurais même plus besoin de puiser, tu serais comblé d'amour et de grâce. Et elle comprend ça. Et elle dit, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus besoin d'aller puiser dans ce puits de Jacob. C'est-à-dire, donne-moi de cette eau que je puisse échapper à cette vision de la religion où il faut sans arrêt travailler et faire des efforts et creuser pour gagner, en quelque sorte, la bénédiction. Et elle va continuer d'ailleurs en disant, mais vous les Juifs, vous adorez Dieu à Jérusalem et nous les Samaritains sur le mont Garizim. Et Jésus va confirmer cette idée en disant que tout cela n'a aucune importance et que l'essentiel, c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité dans son cœur. Alors la Samaritaine va dire, mais es-tu plus grand que Jacob ? Eh bien oui, parce que le Christ lui-même, il est capable de donner une source de bénédiction mieux que toute cette tradition juive, mieux que toutes ces obéissances, mieux que toutes ces pratiques. Et Jésus dit, eh bien oui, je suis effectivement de ce côté-là plus grand que Jacob. Et donc la conversion de la Samaritaine, ce n'est pas une lubie qui lui prend après un discours absurde où Jésus aurait deviné qu'elle avait cinq maris, c'est idiot. C'est un processus, quelque chose qui s'instaure et qui lui permet de découvrir que le Christ peut être la base d'un nouveau mode de relation à Dieu et d'une nouvelle source de bénédiction. Et par là même, dans ce dialogue, on va apprendre beaucoup de choses sur la manière avec laquelle nous pouvons, nous, accéder à la source même de la bénédiction. La première chose, c'est Jésus qui aborde la Samaritaine en lui disant « Donne-moi à boire ». Ça, c'est curieux. Curieux que Jésus, qui est la source, il le dit d'ailleurs après, pourquoi c'est lui qui commence par dire « Donne-moi à boire ». Eh bien, peut-être que cela nous apprend vraiment une chose, c'est que nous devons comprendre que pour entrer dans une juste relation à Dieu, nous devons savoir que nous pouvons donner à Dieu. Et ainsi, de ne pas être dans une sorte d'attente infantile à l'égard de Dieu. Donne-moi ceci, donne-moi cela, et attendre de Dieu qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin ou tout ce que nous voudrions, comme un enfant a de sa mère ou de ses parents tout ce dont il a besoin. Mais c'est de nous dire si vous voulez avoir une foi adulte, avant même de savoir si on a ou non la bénédiction, avant même de savoir si on a la foi ou non, avant même de se demander si on a la présence de Dieu ou non, nous devons nous poser la première question essentielle et fondamentale : que puis-je moi-même donner à Dieu ? Ou au monde, ou aux autres, ou au cosmos, à la création, à qui vous voudrez. Mais qu'est-ce que moi je peux donner aux autres ? Or, ce dont a besoin la femme, c'est justement d'eau. Et donc, de se dire que nous devons donner au monde ce que nous-mêmes nous attendons de Dieu. Et quand on se dit « j'aimerais trouver de la part de Dieu la consolation, la paix, l'amour, l'espérance et la tendresse », eh bien le Christ nous dit « commencez d'abord par le donner aux autres ». Et dites-vous que c'est d'abord Dieu vous-même qui vous demande quelque chose. Et ainsi donc, la prière ne doit pas commencer en bombardant Dieu de réclamations et de demandes, mais bien de dire « Seigneur, dis-moi ce que je peux faire pour toi. Après, on verra. Tant que vous n'avez pas passé cette première étape, eh bien, rien ne peut se dégager. » Pour recevoir l'amour de Dieu, il faut peut-être aussi avoir voulu aimer et se dire « Mais pour aimer, j'ai besoin, moi, d'être aimé. » Il faut vouloir pardonner et se dire « Mais moi, pour pouvoir pardonner, j'ai besoin aussi de pardon. » Et comprendre que si je veux illuminer et donner de l'espérance, eh bien, j'ai besoin d'espérance pour en donner. La deuxième étape, c'est Jésus qui lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais donc celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé. » Alors cette deuxième étape n'est pas très à la mode, et je crois qu'elle est pourtant importante, c'est la notion de connaissance. Si tu connaissais, c'est-à-dire qu'il dit, il reproche à la Samaritaine de ne pas bien connaître le Christ et de ne pas bien savoir qui il est. Et en effet, comment recevoir le Christ si nous ne le connaissons pas ? Eh bien, le remède, si jamais nous pensons que nous n'avons pas assez de foi, eh bien, c'est d'avoir une meilleure connaissance du Christ et de l'Évangile. Et que ça aide à avancer dans une juste relation à Dieu. Alors, vous me direz, mais oui, mais moi, je connais Jésus, je connais les Évangiles. Je ne suis pas certain. On ne connaît jamais vraiment les évangiles. Oui, bien sûr, on connaît la parabole du semeur, celle du bon samaritain et les béatitudes. Mais en fait, la première chose à faire, si nous voulons nous rapprocher de Dieu, eh bien, c'est de nous perfectionner dans la connaissance du Christ et, je dirais, de l'Écriture. On a dit souvent, les protestants, c'est des gens formidables parce qu'eux, ils connaissent l'Écriture. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, les protestants connaissent beaucoup mieux leur Bible que bien d'autres chrétiens, d'autres confessions. Et j'aimerais que les chrétiens, eh bien, effectivement, développent cette connaissance de l'Écriture. Et cette connaissance de l'Écriture, ça s'apprend. Donc voilà, vous voulez la foi, mais oui, mais déjà, apprenez l'Écriture. Vous devez connaître l'Évangile, connaître les versets, connaître tous ces passages par cœur, et vous nourrir de cette connaissance du Christ, de cette connaissance de la parole. Et je crois que le fait de fréquenter l'Écriture, de s'y replonger avec l'humilité de celui qui se dit « je ne pense pas forcément savoir tout, mais j'ai encore à apprendre », eh bien ça l'aide à avancer dans l'Évangile, dans la foi et aussi à recevoir les grâces. Alors la femme va continuer en disant « mais tu n'as rien à puiser et ce puits est profond ». Es-tu plus grand que notre père Jacob ? » Eh bien, c'est vrai parce que ce que dit Jésus est à peu près incroyable dans le contexte de la Bible. Comment penser que cet homme, Jésus, pourrait donner, par la connaissance que nous en avons, autant que toute la tradition religieuse ? Comment penser qu'on pourrait trouver en Christ autant de bénédictions que tout le travail des religions millénaires avec tout leur apparat de rites, d'obéissance, de pratiques et d'autres choses diverses et variées. Et le Christ dit, tu n'as plus besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de tous ces rites, de toutes ces complications, ces obéissances et ces observances. Simplement, tu me demandes et je te donne. C'est-à-dire qu'on est, vous voyez, dans une religion dépouillée à l'extrême, dans laquelle il n'y a plus toutes ces complications traditionnelles, mais uniquement le rapport direct au Christ. Et je pense que c'est là quelque chose de fondamental, et que nous aussi, nous risquons de mépriser Jésus et l'Évangile. Parce qu'on dit bien aux gens, mais vous savez, et ça les protestants l'ont bien entendu, la pratique n'est pas obligatoire, les protestants ne font pas le carême, il n'y a pas d'obligation à aller au culte, il n'y a aucune règle religieuse, ni même morale, et donc beaucoup de gens se disent, c'est parfait, puisqu'il n'y a aucune règle, eh bien, ça me convient très bien, et je ne fais rien. Eh bien, nous avons tendance à croire qu'on pourrait simplement se débarrasser des règles. Mais on ne peut se débarrasser des règles que si on les remplace par un authentique rapport, je dirais, personnel avec Jésus et avec une vraie foi centrée sur le Christ. Si on enlève les rites et qu'on ne met pas Jésus à la place, on n'a simplement plus rien. Mais Jésus, on a, nous, un peu tendance à le mépriser, comme la Samaritaine. On dit, est-ce que tu crois vraiment que le fait de lire un peu d'évangile tous les soirs va changer ma vie? C'est-à-dire, est-ce que tu crois que c'est suffisant, sous-entendu? Est-ce que tu crois que le fait de prier ou d'apprendre à prier peut changer ma vie? Est-ce que tu crois que tu es plus grand que notre père Jacob et que ces grandes religions avec tout leur processus extrêmement complexe? Eh bien oui, l'expérience, c'est qu'effectivement, il y a dans le Christ lui-même une vraie source infinie de bénédiction, une source jaillissante dans l'Évangile. Et à la fois, donc, en lisant ce texte, je ne peux que plaider pour une religion infiniment dépouillée et en même temps une religion recentrée sur le Christ lui-même. Parce que cette source, elle vaut mieux que tous les puits de l'Ancien Testament, tous les puits de la pratique, de la morale et de l'observance. Ne serait-ce que parce qu'un puits, à l'époque, c'était surtout des citernes, c'est-à-dire une cuve plus ou moins cimentée dans laquelle il y avait de l'eau stagnante. C'est-à-dire, beaucoup de ces religions sont en fait, l'idée, c'est qu'il y a eu à un moment donné de l'eau et qu'ensuite on la garde précieusement et on va puiser dans une eau ancienne. Ça, c'était l'idée du judaïsme du temps du Christ. Ils pensaient que du temps de Moïse, des prophètes, de Jacob et tout ça, l'Esprit soufflait, que là, il y avait quelque chose d'extraordinaire, mais que depuis les derniers prophètes, l'Esprit ne soufflait plus, et donc il fallait simplement aller puiser dans ces anciennes paroles, et puiser dans ces anciens textes, et aller simplement pratiquer les commandements de Moïse, autrement dit. Et Jésus dit, on n'est pas là pour aller puiser dans des anciennes histoires. Il dit, moi, je suis une source jaillissante. C'est-à-dire que c'est plus de l'eau croupie qu'on ramène à la surface, mais c'est une source d'aujourd'hui, une source d'eau vivante qui est fraîche, pure et désaltérante, qui n'a rien à voir avec les vieilles eaux d'il y a 1000 ans ou 2000 ans qu'on nous resserre. Eh bien, nous chrétiens, prenons garde de ne pas resservir à nos fidèles les eaux croupies des temps passés. Parce que c'est un danger pour nous aussi. Les protestants prétendent être libres de toute tradition, mais ça fait quand même plus de 500 ans. Ça fait quand même un demi-millénaire que Calvin et tout ça ont parlé. Et est-ce que nous pouvons imaginer qu'il faudrait ici resservir les eaux croupies de la Réforme? Eh bien non. La source d'eau vive, c'est le Christ. Et il n'y a pas à resservir les eaux croupies d'un traditionalisme qui, à mon avis, ne peut abreuver personne. Donc il faut avoir le courage de soi-même aller se boire à la source même de sa propre relation au Christ et de libérer cette relation au Christ de tous les carcans des citernes cimentées qui enferment tout, des catéchismes du XVIe siècle, du XVIIe siècle, du XIXe siècle et même d'il y a 5 ans, 10 ans, 50 ans ou 80 ans que vous avez reçu, parce que les catéchismes sont parfois les choses les plus dangereuses au monde, parce qu'elles enferment notre foi et on a du mal à s'en sortir. Et donc, abandonnez toutes ces citernes fermées et ne croyez pas que vous vivrez aujourd'hui sur l'eau croupissante de votre catéchisme reçu il y a 60 ans. Mais dites-vous que la source d'eau vive, elle n'est pas dans la foi qu'on veut vous imposer, mais dans la foi que vous aurez vous-même directement au Christ. Et donc, abreuvez-vous à l'Évangile et ayez le courage, je dirais, de la liberté et de vous dire que c'est ce que vous, vous boirez qui sera bon pour vous. On a la chance de ne rien imposer et de donner aux fidèles l'Écriture. Prenez ce texte, lisez-le à votre manière. Et si moi je le bois d'une façon, c'est peut-être pas votre manière. Buvez-le à votre manière. Et alors vous saurez effectivement trouver la source jaillissante, la source nouvelle qui pourra permettre de trouver une vraie vie et une vraie source de bénédiction en vous. Alors Jésus répond, celui qui boit de cette eau, donc du puits de Jacob, aura toujours soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et ce sera comme une source jaillissante en lui jusque dans la vie éternelle. Ça, c'est l'expérience que l'on peut faire. C'est que ce rapport au Christ n'est pas une simple connaissance, mais c'est quelque chose que l'on devient. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'ajouter dans une vie des pratiques ou des croyances, mais c'est de trouver une source qui transforme de l'intérieur. Et ça aussi, c'est très nouveau. Parce que l'eau du Christ n'est pas quelque chose que l'on consomme, mais c'est une source de transformation. Et ça met une source au plus profond de notre être, qui nous permet aussi de devenir nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres, bien sûr. Alors la femme dit « Donne-moi de cette eau, Seigneur, que je n'ai plus jamais soif de bénédiction, donc. » Et en effet, on voit que la femme, là, n'a pas encore la plénitude de cette source d'eau vive que Jésus peut lui donner. Elle n'a peut-être pas expérimenté pleinement cette bénédiction que Dieu peut donner par le Christ, mais elle la désire de tout son cœur. Alors elle dit « Seigneur, donne-moi cela. » Et ça, c'est ce que nous devons faire aussi, c'est de s'ouvrir. Et que la demande, c'est elle qui a la juste prière. « Donne-moi, Seigneur, cette source qui puisse jaillir dans mon sein jusque dans la vie éternelle. » Parce que demander, c'est se mettre en état de pouvoir recevoir. Et quand on demande, eh bien on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver, mais elle sait, elle, qu'elle va trouver quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si c'est très clair encore dans son esprit, d'après le texte. Là, il y a une sorte d'ellipse dans le texte. Elle dit « Donne-moi », et puis après elle s'en va, elle va voir les autres gens de sa famille, et elle dit « Ben écoutez, moi j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire, qu'elle veut partager avec les autres. » Et elle dit « J'ai trouvé un homme qui m'a parlé de moi et qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et je ne pense pas que cela veuille dire qu'elle a trouvé quelqu'un qui a inventé, deviné ce qu'elle faisait dans sa vie concrète. Mais elle dit « J'ai trouvé quelqu'un qui, pour une fois, parle de moi, c'est-à-dire parle de ma vie et parle de mon expérience. Et quelqu'un qui donne sens à ce que je vis. » Et je crois que le message de l'Évangile aussi, eh bien, il nous touche quand il touche notre vie. C'est-à-dire, c'est pas d'ajouter une fois de plus dans une vie quelconque un autre devoir en plus qu'un devoir religieux, mais de se rendre compte qu'il y a dans l'Évangile quelque chose qui parle de moi. Et donc, c'est la clé de toute la lecture de la Bible. On parle de moi. Et quand Jésus guérit un aveugle, c'est de moi qu'il parle. Je suis cet aveugle et il m'ouvre les yeux. Quand Jésus guérit un homme qui a une main sèche, c'est de moi qu'il parle quand j'ai du mal à agir dans le monde. Et quand Jésus ressuscite Lazare, eh bien c'est moi qu'il ressuscite. Quand je m'enferme ou quand on m'enferme dans des tombeaux de découragement ou de peur, dans des enfermements mortifères. Et donc de se dire, c'est bien de moi dont il est question, et alors je découvre que ce discours donne un sens à ma vie. Eh bien voici le Christ eh bien, une source de vie qui peut changer notre vie. Et il peut faire aussi que nous soyons à notre tour une source pour les autres. Et ce même Christ, dans ce dialogue avec la Samaritaine, nous montre qu'il peut nous rendre libres et qu'il ne nous met pas dans une sorte de dépendance à une secte ou à une religion, à une pratique qui dicterait ce qu'il faut faire. C'est un Christ qui nous libère de tout et qui nous donne simplement la source même de la bénédiction dont nous avons besoin. Et quand on est directement abreuvé d'une source de vie, de liberté, de joie, d'espérance, de paix, de confiance, eh bien on ne peut que soi-même être dans ce monde une source de liberté, de vie, de joie, d'espérance et de confiance. Et finalement, Dieu n'attend rien d'autre que cela de chaque être humain. Dieu n'attend rien d'autre que nous soyons à notre tour une source de toutes ces bénédictions, et pour cela que nous allions nous-mêmes chercher à la base, à la source de la source, dans le Christ, tout ce dont nous avons besoin. Et alors en lui, nous pouvons être comblés d'espérance et de bénédiction pour aujourd'hui et pour toujours, en avoir plein pour nous-mêmes et plein à redonner à tout le monde. Amen.